franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la Dame de Fer, le roi Arthur et la grève des mineurs. Au mois de mars 1984, au Royaume-Uni, éclate un conflit social d'une ampleur inédite. Le syndicat des mineurs britanniques, la plus puissante organisation ouvrière d'Europe, s'oppose à la fermeture des mines de charbon décidée par le gouvernement conservateur. En l'espace de quelques jours, un peu partout en Grande-Bretagne, à l'appel de leurs responsables syndicaux, plus de 80 000 mineurs se dressent comme un seul homme derrière les piquets de grève. Et très vite, le ton se durcit, le mouvement s'amplifie, les négociations stagnent et avec elles, le conflit dégénère. D'une lutte pour les revendications sociales, la grève des mineurs génère au fil des mois une situation quasi insurrectionnelle sur tout le territoire. Les affrontements entre grévistes et non-grévistes se succèdent, la liste des altercations avec les policiers s'allonge, car à Londres, le mot d'ordre est clair, il faut éradiquer cette menace de l'intérieur, explique-t-on. Alors, on mobilise contre les mineurs en grève toute la panoplie répressive de l'État. On tente d'interdire le mouvement, on essaie de dissoudre les syndicats, puis on envoie la police anti-émeute dans les houillères. Apparaissent alors en toile de fond de cette affaire deux personnages aujourd'hui entrés dans les livres d'histoire. D'un côté, le tout-puissant chef du syndicat des mineurs, Arthur Scargill, dit le roi Arthur, prêt à tout pour faire plier la politique du gouvernement conservateur. Et en face, bien sûr, l'intransigeante première ministre du pays, Margaret Thatcher, celle qu'on surnomme la Dame de Fer, qui veut briser les syndicats pour imposer un nouvel ordre social et économique. Cheval de Troie en Europe des Reaganomics américains dans la droite ligne de l'idéologie libérale de l'école de Chicago, ce modèle qui aujourd'hui s'est imposé dans l'ensemble du monde développé. Après le récit, nous recevrons Pierre-François Guiffès, inspecteur des finances. Il fut membre du cabinet de Jean-Louis Borloo au ministère de l'Emploi de 2004 à 2007. Il est aujourd'hui maître de conférences à Sciences Po et auteur d'un ouvrage sur le sujet d'aujourd'hui intitulé « Margaret Thatcher face aux mineurs 1972-1985, 13 années qui ont changé l'Angleterre », livre paru en 2007 aux éditions Priva. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Carra avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Patrick Henry.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Au début des années 70, rien ne va plus à la Bourse de Londres. À deux pas de la cathédrale Saint-Paul, dans la grande salle des marchés située sur Paternoster Square, l'ambiance est morose. Les yeux rivés sur leurs carnets, sur les grands tableaux d'affichage, les courtiers britanniques sont inquiets. Jour après jour, semaine après semaine, ils assistent à la chute de la livre sterling qui s'effondre face au dollar américain. Voilà plusieurs années que le Royaume-Uni traverse une situation économique difficile. En proie à des déficits records, les différents gouvernements travaillistes ou conservateurs dévaluent la monnaie et imposent la rigueur budgétaire. Conséquence, sur tout le territoire, la croissance est au plus bas, la productivité stagne et l'inflation grimpe de manière alarmante. Vu de l'étranger, les économistes ne s'y trompent pas. Le Royaume-Uni est l'homme malade de l'Europe. L'outil industriel anglais, jadis à la pointe de la technique, fait désormais pâle figure. Les chiffres des instituts d'études sont d'ailleurs sans nuance. La production issue des manufactures et usines de Grande-Bretagne est en baisse de 50% par rapport à la décennie précédente. Pire encore, le Royaume-Uni, qui était au cinquième rang en termes de PNB par habitant en 1951, se classe désormais à la 18e place. Loin, bien loin des autres pays d'Europe de l'Ouest. Au même moment, un peu partout sur l'île, les syndicats multiplient les grèves. Qu'ils soient dockers, électriciens ou encore postiers, ils débraillent pour dénoncer les coupes budgétaires. Une politique qui aboutit selon eux à une vie de plus en plus chère et à des salaires de plus en plus bas. Parmi ceux qui représentent l'aile dure du mouvement, il y a les mineurs. Ils sont tous syndiqués et solidaires. À cette période, le charbon, leur charbon, représente 80% de la production d'électricité. Autant le dire, ces hommes qui descendent dans des galeries souterraines à plusieurs dizaines de mètres et en ressortent à la fin de la journée la gueule noire, ont entre les mains un incroyable moyen de pression. Ainsi, en 1972, un premier grand mouvement de grève de 7 semaines perturbe les houillères. le gouvernement britannique, contraint et forcé, accepte toutes leurs revendications. Bref, la victoire est totale pour les mineurs. 2 ans plus tard, en 1974, la grève reprend. Et cette fois, pas une once de charbon ne sort des houillères de Grande-Bretagne. Et le Royaume-Uni se retrouve plongé dans le noir. Les Londoniens redécouvrent alors ce qu'était la vie du temps de l'écrivain Arthur Conan Doyle, par exemple. Comment témoigne cette jeune femme employée d'une agence immobilière ?
Je travaille dans une société immobilière dans la cité. Et nous sommes touchés par les difficultés. Nous travaillons à la lumière des bougies, soit des lampes électriques de poche, ce qui est un peu difficile pour taper à la machine, mais aussi ce qui nous touche le plus, c'est pour travailler sans chauffage, il faut porter 2 ou 3 poules vertes, et c'est très difficile là de taper à la machine aussi, il fait trop froid.
Vous êtes inquiète ?
Ça oui, je m'inquiète beaucoup.
Comme elle, ils sont plusieurs millions de Britanniques à vivre dans l'angoisse des coupures de courant. Pris à la gorge par l'ampleur du phénomène, le premier ministre conservateur, Edward Heath, accepte les revendications des mineurs. À l'issue du conflit, les responsables politiques ressortent sonnés. Le premier ministre, lui, est renversé par des élections législatives anticipées. Pour de nombreux observateurs, il devient clair que les dirigeants syndicaux britanniques disposent là d'un contre-pouvoir hors norme. Dans l'ombre de ces grandes grèves de 1972 et 1974, un homme d'une trentaine d'années se fait un nom dans les milieux syndicaux. On raconte qu'il serait à l'origine d'une nouvelle technique de grève, celle des piquets volants. Oui, une technique qui consiste à aller par petits groupes de grévistes de puits en puits pour faire voter la grève dans toutes les mines. Le principe est à l'époque inédit. Parmi les mineurs, nombreux sont ceux qui prétendent avoir croisé cet homme de grande taille, le crâne légèrement dégarni, le nez allongé. La rumeur dit de lui qu'il a commencé à travailler à la mine à 15 ans et qu'il a participé à sa première grève à tout juste 17 ans. Cet individu, dont on murmure le nom dans les galeries et dont on vante les exploits dans les pubs, c'est Arthur Scargill. Au sein du NUM, Union Nationale des Mineurs, Scargill grimpe progressivement les échelons du syndicat. Il va de bassin minier en bassin minier, il rencontre et il échange avec tous ceux qu'il croise. Il est de tous les rassemblements. On le dit très à gauche. On le dit combatif, déterminé, dévoué. Une chose est certaine, son profil plaît et rassemble. Tant et si bien que quelques années plus tard, à la fin de la décennie 70, les mineurs britanniques vont l'élire comme chef de leur syndicat. Et désormais à la tête de 180 000 hommes à travers tout le pays, Scargill, qu'on surnomme le roi Arthur, semble invincible. Au même moment, à quelques dizaines de kilomètres plus au sud, à Londres, les dernières nouvelles économiques restent préoccupantes. Pour faire face à la crise latente, l'État britannique nationalise en urgence plusieurs grands secteurs d'activité. C'est le cas par exemple de la sidérurgie, de l'industrie aéronautique et automobile. Une politique qui, bien sûr, a un coût astronomique. En 1979, on estime que les dépenses atteignent la moitié du produit national brut du pays. Et toujours en proie à des difficultés budgétaires de premier plan, les Britanniques sont contraints d'accepter un plan d'aide du FMI. Voilà, c'est dans ce contexte bien particulier que le second acteur de la future grande grève des mineurs sort de l'ombre. Un acteur, ou plutôt une actrice. Car en ce printemps 1979, le Royaume-Uni donne pour la première fois de son histoire le pouvoir politique à une femme.
Margaret Hilda Thatcher, conservative. 20,918.
Eh bien voilà, le champagne français pétille déjà. La femme de fer a gagné la partie de bras du même nom engagée avec James Callaghan. Ce que vous venez d'entendre en anglais, c'est bien sûr l'annonce de l'élection de Margaret Thatcher, championne des Tories et qui sera donc très vraisemblablement le prochain Premier ministre britannique.
Anticommuniste farouche et néolibéral convaincu, Margaret Thatcher s'installe dans la foulée au 10 Downing Street, la résidence et le lieu de travail du Premier ministre de Sa Majesté. Sous son impulsion, un vent économique aux inspirations atlantistes souffle très vite sur la Grande-Bretagne. Très vite également, la Première ministre affiche aussi sa détermination à en finir avec le contre-pouvoir syndical. En 1974, alors ministre de l'éducation du gouvernement Heath, elle avait assisté impuissante à la chute politique de son mentor suite à la grande grève des mineurs. Elle entend maintenant prendre sa revanche. Elle veut mettre les syndicats britanniques à genoux, et en particulier le NUM, le syndicat des mines, à titre d'exemple. Dans les semaines qui suivent sa prise de fonction, Margaret Thatcher demande d'abord la création d'un centre de crise dans l'immeuble de Scotland Yard. C'est là, en effet, dans le plus grand secret, que va se préparer le plan d'action anti-syndicat. Au niveau législatif, elle demande aussi que soit votée toute une série de lois qui limitent l'action syndicale et le droit de grève. Dans l'ombre, la chef du gouvernement avance ses pions. Pour se faire une idée de son animosité à l'égard des mineurs, il suffit de se rappeler cette déclaration de son ministre des Finances. Face aux journalistes, cet homme, Nigel Lawson, l'affirme sans détour. Dès sa prise de fonction, Margaret Thatcher entendait éradiquer le syndicat des mineurs. C'était une priorité aussi impérieuse pour elle que celle de Churchill à se réarmer contre la menace de Hitler dans les années 30. Rien que ça. Thatcher, ses ministres du Parti conservateur, son plan d'action secret, ses dizaines de milliers de policiers d'un côté, Scargill, son syndicat de mineurs, ses idées radicales et ses 180 000 membres de l'autre, voilà, les acteurs de la grande grève des mineurs sont en place. Sur l'échiquier politique, on s'observe. Qui frappera le premier? Qui va déclencher les hostilités? Eh bien, la réponse interviendra 4 ans plus tard, et elle marquera avec elle le début du plus grave et du plus long conflit social au Royaume-Uni. Mars 84, il est un peu plus de 7h du matin. Le jour se lève sur le comté du Yorkshire. Les petites maisons, toits gris aux briques rouges des quartiers populaires de Sheffield, se réveillent. Nous sommes ici, à 250 km au nord de Londres, en plein cœur du principal bassin minier de Grande-Bretagne. Mais contrairement aux habitudes, ce matin-là, sur les collines, les 65 puits de mines restent silencieux. Les imposantes structures d'acier et les cheminées sont à l'arrêt. Aucun bus ne circule en ville. Ce matin-là, la région vit au ralenti. Les mineurs sont en grève. C'est la décision, quelques jours plus tôt, par le NCB, National Cord Board, comprenez les charbonnages britanniques, une société d'État qui est en charge l'exploitation des mines. C'est sa décision de fermer sur le champ la mine de Cortwood, à quelques kilomètres de là, qui met le feu aux poudres. Depuis, les rumeurs vont bon train chez les mineurs. Certains disent que le gouvernement prévoit également la fermeture d'une vingtaine de puits sur les 150 que compte le pays, ce qui menacerait à terme plus de 20 000 emplois. À cela s'ajoutent d'autres rumeurs, parmi lesquelles l'une qui affirme que l'État dispose d'un plan secret, du plan Ridley, du nom du ministre des Transports du Royaume, pour réduire de 80% l'activité des mines et mettre à la porte plus de 100 000 mineurs en 10 ans. Présent sur place en sa qualité de chef du syndicat des mineurs, Arthur Scargill prend la tête du mouvement de grève. Les piquets volants se déplacent de puits en puits. En l'espace de quelques heures, le mot d'ordre de la grève générale se répand comme une traînée de poudre. Plusieurs sites miniers sont progressivement paralysés. Au début indécis, de nombreux mineurs rejoignent les rangs des grévistes. Le soir même, à la télé, les journalistes s'interrogent sur la stratégie que va adopter le gouvernement de Margaret Thatcher. Les conservateurs vont-ils se retrouver au pied du mur comme ce fut le cas en 1974 ? Pour le journaliste du quotidien britannique The Economist, Ian Carson, la situation actuelle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé 10 ans plus tôt. Non, non, cette fois, les mineurs partent avec un sérieux handicap.
Ils ne sont pas prêts à soutenir les mineurs très activement. Alors dans une situation comme ça, avec les stocks, avec l'été qui vient, les mineurs sont dans une position assez faible.
Oui, c'est en effet la particularité de ce conflit. Cette fois, les mineurs ne pourront pas compter sur le chantage au charbon pour asseoir leurs revendications. Autre différence de taille avec la grève de 1974, les différentes organisations de mineurs n'affichent pas leur unité. Pourtant, l'objectif d'Arthur Scargill et de ses hommes est bien de faire plier le gouvernement Thatcher et empêcher toute fermeture de mines. Pour y parvenir, leur stratégie repose sur 3 axes. Tout d'abord, montrer un soutien massif derrière chaque piquet de grève pour encourager les autres mineurs à rejoindre le mouvement. Ce qui signifie, lorsqu'on lit entre les lignes, être prêt à l'affrontement s'il le faut avec les bobbies, les policiers britanniques et les jaunes, les non-grévistes. Second point, dénoncer l'oppression du gouvernement conservateur ainsi que ses lois antisyndicales. Il se trouve que l'une d'elles prévoit l'obligation d'organiser un vote formel de tous les militants pour lancer une grève nationale, une loi qui constitue donc un frein à l'action des syndicats. Troisième et dernier point, face à une presse qui le présente comme un rouge ou un bolchevique mégalomane, autrement dit un communiste, Scargill contre-attaque. Le chef du NUM veut populariser la grève dans les bassins miniers. Il veut montrer à la population que les mineurs se battent pour elle, pour sauvegarder l'emploi de tous et non pour obtenir quelques privilèges. Pour cela, le leader syndical active son réseau afin que les médias étrangers s'intéressent au conflit. En France, à la télé, les téléspectateurs découvrent ainsi le visage et la voix de Line Cheatham. Line est fille de mineur et surtout femme de mineur. Depuis le début du mouvement, elle vit au jour le jour les privations et l'inquiétude. Aujourd'hui, elle témoigne.
Nous ne nous battons pas seulement pour les mineurs, nous nous battons pour sauver tous les secteurs qui dépendent de l'industrie minière. Nous croyons très fort en cela. Nous voulons sauver l'emploi pour nos enfants, pour qu'ils puissent rester au pays. Nous sommes prêtes à nous battre pour eux. Comment faites-vous pour l'argent ? C'est très difficile. Nous devons organiser des collectes partout en Grande-Bretagne. Ce sont surtout les syndicalistes qui nous viennent en aide. Tant qu'il y aura des mineurs pour aller travailler malgré la grève, notre situation ne pourra pas s'arranger. Je ne sais pas quand ça se terminera. Si tout le monde cesse le travail pour nous soutenir, alors une solution pourra être trouvée beaucoup plus vite. Notre combat est leur combat, c'est le combat de toute la classe ouvrière de Grande-Bretagne.
À la fin du mois d'avril 1984, après deux semaines de conflit, la pression demeure très forte partout dans les houillères et à proximité des puits de mine. Sur place, les affrontements entre grévistes et non-grévistes multiplient. On compte déjà plusieurs dizaines de blessés. Et très vite, ce qui devait arriver arrive, un drame se produit. Sur les ondes de la BBC, on apprend en effet qu'un mineur a été retrouvé mort chez lui. Yann Taren, c'est son nom, avait refusé de participer à la grève car il avait peur de perdre son emploi. Classique. Depuis plusieurs jours, il était victime, selon ses proches, de brimades, d'insultes et de harcèlement de la part d'autres mineurs, grévistes, eux. La pression était devenue trop forte. Yann Taren avait 25 ans. Il devait se marier dans quelques mois avec Jenny, sa compagne. Or, il s'est pendu à son domicile. La grève des mineurs venait de faire un premier mort. Largement relayé dans la presse, ce drame crée l'émoi chez les Britanniques. Et il témoigne de la tension qui règne dans les bassins miniers. De son côté, le gouvernement de Margaret Thatcher ne veut rien entendre, rien lâcher. Il veut montrer, ce gouvernement, qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, si nécessaire. C'est ce que rapporte le correspondant de France Inter à Londres, à l'époque, Pascal Delannoy.
Pas question de céder. Margaret Thatcher l'a répété solennellement cet après-midi. La police a reçu toutes les instructions nécessaires pour faire respecter la loi aux portes des mines. Et la loi est on ne peut plus claire. Dans ce pays, les piquets de grève obéissent à des règles précises. Autant dire qu'il n'y aura pas de clémence pour ceux qui s'opposent au texte en vigueur. Une législation somme toute très favorable à la liberté du travail. Ce soir, les deux tiers des puits en Grande-Bretagne ont cessé toute activité et plus de la moitié des 180 000 mineurs britanniques sont en grève. Un peu partout, les bagarres se multiplient. Après les injures, ce sont les coups qui volent. On se bat armé de bâtons ou de briques, c'est selon. Les non-grévistes qui veulent franchir les piquets foncent la tête baissée. Ceux qui étaient sans doute hier encore leurs camarades tentent de les en empêcher par tous les moyens. C'est dire si on est loin, très loin de l'enthousiasme et de l'unanimité de 74. Voilà ce qui explique cette explosion de colère entre grévistes et non-grévistes. La direction des charbonnages, elle, a déjà prévenu. Cette situation, dit-elle, ne peut qu'accélérer l'application de son plan, à savoir le licenciement de 20 000 mineurs.
Le 18 juin, après trois mois de conflit, l'affrontement entre les mineurs grévistes et la police se concentre sur le dépôt d'Orgreave dans le sud du Yorkshire. Si officiellement le gouvernement n'intervient pas dans le conflit, officieusement il envoie les policiers pour assurer l'accès au travail des non-grévistes. Pour les mineurs, Orgreave est un lieu symbolique qu'il faut conserver à tout prix. Alors, Arthur Scargill envoie sur place plusieurs milliers de piquets de grève volants. Les jours passent, et à mesure que la mobilisation grandit, les unités de la police anti-émeute se déploient et entourent le site. Aux jets-pierres des manifestants répondent les canons à eau des policiers. Et à ce petit jeu, la situation dégénère. On note plusieurs accrochages sérieux. La répression policière est brutale. On dénombre plus d'une centaine de blessés chez les manifestants. Un policier est retrouvé inconscient après avoir été passé à tabac. Résultat, on lance une grande vague d'arrestations dans les milieux grévistes. Des dizaines de personnes sont interpellées, dont le chef du mouvement des mineurs, le roi Arthur en personne. Inculpé d'obstruction sur la voie publique, il sera par la suite relâché. Joint par téléphone sur France Inter, le correspondant de l'AFP au Royaume-Uni, Denis Brulé, témoigne.
Les mineurs britanniques ont réussi jeudi à discuter avec la direction des charbonnages sans claquer la porte pour la première fois depuis le début de leur grève, il y a près de 3 mois. Mais tout peut basculer à nouveau, estimait-on à Londres jeudi soir. Les pourparlers se sont déroulés dans un lieu tenu secret, proche de la capitale. Et la seule précision donnée de part et d'autre est que le président des charbonnages, M. MacGregor, bête noire des grévistes, n'y assistait pas. Il était difficile de savoir jeudi si ces premières discussions allaient pouvoir déboucher sur l'ouverture de véritables négociations. Mais on a pu remarquer que les affrontements entre policiers et piquets de grève n'ont pas été aussi violents aujourd'hui que ces derniers jours. L'arrestation pendant quelques heures mercredi du leader des mineurs, M. Arthur Scargill, avait été le point culminant des échauffourées qui avaient pris une dimension rarement vue en Grande-Bretagne dans un conflit social.
En ce début d'été 1984, le Royaume-Uni vit au rythme des piquets de grève. Les forces sociales du pays sont en ébullition. Les négociations entre un représentant des mineurs et la Société nationale des charbonnages piétinent. Et à mesure que les semaines passent, la tension gagne un peu plus les grévistes. Au même moment, députés de Westminster, siège du Parlement britannique, ont fait les comptes. 50 millions de tonnes de charbon ont été perdues. Et le coût du conflit est estimé entre 2 et 4 milliards de livres sterling. Pourtant, le gouvernement de Margaret Thatcher continue de faire la sourde oreille. Au 10 Downing Street, mon pari sera l'épuisement des mineurs pour la rentrée de septembre. En face, dans le Yorkshire, bastion de la contestation, plus de 50 000 gueules noires s'opposent toujours à la fermeture des mines. Malgré les privations qu'ils endurent, la fatigue, les tensions et les frictions avec la police, ils ne s'avouent pas vaincus. Non, ils veulent aller jusqu'au bout. Alors, qui du gouvernement conservateur de Margaret Thatcher ou du syndicat des mineurs d'Arthur Scargill va remporter cette bataille? Et surtout, quelles seront les conséquences pour l'avenir du pays? Laissez les mineurs dans les puits, mettez les conservateurs au chômage. Tels sont les chants des manifestants réunis à Londres entre Hyde Park et Trafalgar Square. Durant tout l'été 84, les femmes de mineurs défilent dans la capitale britannique. Dans leurs mains, elles brandissent de grandes pancartes sur lesquelles on peut lire « Si vous prenez le travail de nos maris, vous prenez l'argent qui nourrit nos enfants ». Spectaculaire à plus d'un titre, les défilés rassemblent plusieurs milliers de personnes. Ce qui n'est qu'une démonstration de force pour l'image, car en réalité, oui, en réalité, rien ne va plus pour Arthur Scargill et ses hommes. En effet, le syndicat des mineurs, la NUM, n'arrive pas à obtenir l'adhésion des autres syndicats du pays. Certes, les dockers se mettent à leur tour en grève, mais leur mouvement est bien trop faible, et surtout trop éloigné de celui des mineurs pour que cela ait un véritable impact sur le gouvernement. À partir du mois d'août 1984, le roi Arthur le sait, il est isolé. D'autant plus que le syndicat des porions, les contremaîtres des puits de mine, a finalement annoncé à la surprise générale qu'il ne s'associe pas au mouvement. Au début de l'automne, alors que les grèves se poursuivent et que les discussions piétinent, le chef du syndicat des mineurs se retrouve au cœur d'une violente polémique. Dans son édition hebdomadaire, le tabloïd britannique Sunday Times affirme en effet que lui, Arthur Scargill, aurait reçu de l'argent pour financer son mouvement de la part du colonel Kadhafi. L'affaire, évidemment, fait grand bruit à Londres, car la Libye est depuis 6 mois placée sur la liste noire du Foreign Office, après l'assassinat de la policière Yvonne Fletcher par un membre de l'ambassade libyenne lors d'un rassemblement anti-Kadhafi dans la capitale britannique. Présent en Grande-Bretagne, Pascal Delannoy, le correspondant de France Inter, donne sur ce point quelques précisions.
La Libye, prête à soutenir les mineurs anglais, depuis 24 heures, cette nouvelle provoque ici, c'est vrai, indignation et colère. C'est Madame Thatcher qui dit « je n'en reviens pas », c'est le leader de l'opposition travailliste, Nel Kinnock, qui ajoute « toute offre venant d'un régime aussi ignoble doit être considérée comme une insulte pour le mouvement ouvrier anglais ». Bref, voilà, Arthur Scargill se met de s'expliquer. Oui, vient-il de reconnaître, je suis allé début octobre à Paris au siège de la CGT pour voir comment s'organiser l'aide des syndicats français et c'est là que j'ai rencontré des soviétiques, des hongrois et des libyens. Arthur Scargill qui ajoute « Nous acceptons toute aide financière qui puisse soulager nos grévistes ». Maintenant, sur le fait de savoir si un peu plus tard, un représentant des mineurs est allé effectivement à Tripoli pour avoir un contact direct avec Kadhafi, pas un mot, c'est pourtant ce qu'affirmait hier matin notre confrère le Sunday Times, visiblement très bien informé.
Une semaine plus tard, toujours dans les colonnes du Sunday Times, les syndicats de mineurs britanniques reconnaissent avoir reçu une aide financière de plus $1 million, de la part cette fois des soviétiques. Mis en cause par le parti travailliste, accusé par d'autres syndicats de jouer un double jeu, Arthur Scargill apparaît décrédibilisé. Son impopularité grandissante joue désormais contre les mineurs et contre leur mouvement. À cela s'ajoute fin novembre la séquestration des fonds du syndicat des mineurs par décision de justice. Désormais, Scargill et le NUM n'ont plus d'argent pour aider les familles grévistes. Ils en ont conscience. L'étau se resserre. Au même moment, dans le plus grand calme, et évidemment, vu la situation qui évolue, Margaret Thatcher abat ses cartes. Elle le sait, l'hiver approche, et avec lui, les mineurs vont devoir faire face à des conditions de vie très difficiles. À l'approche des fêtes de Noël, en 1984, la grève des mineurs entre dans son 9e mois. 9 mois de sacrifice. Dans certains puits, on trouve des accords sur les salaires et la protection de l'emploi. Et en quelques semaines, la grève se brise à certains endroits au grand dam du syndicat des mineurs. Ailleurs, le nombre des grévistes baisse de manière significative, car avec le froid, sans argent pour acheter du charbon, les mineurs et leurs familles grelottent, comme en témoigne ce couple face à la caméra de France 3.
On n'a plus les moyens d'acheter du charbon, il faut aller fouiller dans les décharges. Il n'y a pas d'autre solution. Ça me prend beaucoup de temps, environ 3 ou 4 jours entiers par semaine. Mais c'est vraiment la priorité à cette saison, avoir chaud. Et puis garder le moral.
Comment faites-vous pour tenir le coup aussi longtemps ?
Grâce à l'aide de la famille, des amis. Sinon, ce serait encore pire.
De combien d'argent disposez-vous par semaine pour vous et vos deux enfants ?
Environ 10 livres. 10 livres par semaine pour la nourriture, c'est un maximum.
Des enfants qui ont faim, des familles qui ont froid. En France, la presse revient largement sur la situation dramatique que traversent plusieurs dizaines de milliers de familles de mineurs britanniques et leurs proches. En signe de solidarité, la CGT organise plusieurs grands convois humanitaires à destination du Royaume-Uni. Au départ de Montreuil, en banlieue parisienne, ce sont plusieurs dizaines de semi-remorques transportant au total plus de 400 tonnes d'aide alimentaire, de produits hygiéniques, mais aussi des vêtements et de jouets qui partent à destination de Calais avant de prendre le ferry pour rejoindre Douvres, en Grande-Bretagne. Sur le toit des camions sont fixés des drapeaux aux couleurs de la CGT, mais aussi aux couleurs de l'Union Jack britannique. À quelques mètres de l'un d'entre eux, le secrétaire général de l'organisation syndicale française, Henri Krasucki, qui témoigne avec émotion.
150 000 mineurs avec leurs familles, en grève depuis 8 mois. On n'a jamais vu ça en Europe et je crois dans le monde. Mais personne n'a fait autant que les mineurs britanniques. C'est émouvant. Ça mérite le respect et surtout ils ont besoin d'être aidés. Parce que ils crèvent de faim, voilà la vérité. Et il ne faut pas qu'ils soient battus pour manque de solidarité. Leur lutte à eux, c'est aussi la nôtre. C'est ce que je vais leur dire tout à l'heure à Douvres. Je vais leur dire que c'est à nous de les remercier. Parce que en luttant pour leur charbon, ils nous aident à lutter pour le nôtre.
Une fois sur place, Henri Krasucki remet un chèque de 700 000 francs à Arthur Scargiel. Cet argent s'ajoute à celui déjà donné par les syndicats belges et hollandais pour aider les familles grévistes. Mais l'entraide française va plus loin. À Liévin, dans le nord de la France, à l'appel des syndicats de mineurs, les familles accueillent pour Noël une quarantaine d'enfants britanniques. C'est l'action baptisée Christmas CGT. Au même moment, au Pays de Galles, dans la région de Cardiff, la mobilisation continue. On tente de reprendre espoir, comme on peut. Et comme en témoigne cet instituteur au micro de France Inter, les gens font grève, non pas pour eux, mais pour leur communauté.
Ils ne peuvent pas tenir indéfiniment, c'est certain. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus ce à quoi ils sont prêts à faire face. Ils ont passé déjà le plus dur. Le seuil critique pour les mineurs, je crois que c'est tous les jours. Le seuil critique, ça se passe quand ils n'ont pas l'argent qu'ils avaient avant, quand ils ne peuvent pas se payer ce qui est nécessaire pour leur famille et pour eux. Mais ils ont le soutien de leur communauté, ils ont le soutien de leur famille, ils ont le soutien de syndicats dans d'autres pays aussi. Par exemple, les 140 tonnes de nourriture qui est arrivée de France. Maintenant, ils sont devenus habitués à la douleur, ils sont devenus habitués à la souffrance et ils sont prêts à tenir aussi longtemps qu'il le faut.
Pourtant, il apparaît clair aux yeux de l'opinion publique britannique que la mobilisation autour de la grève des mineurs s'essouffle. Jour après jour, ils sont de plus en plus nombreux à reprendre le travail. Démoralisés ou conscients que dans ce conflit, aucune issue acceptable ne s'offre à eux. Ainsi, dans le courant des premières semaines de l'année 85, le ton change chez les membres du syndicat des mineurs. Ils se disent prêts maintenant à revenir à la table des négociations. Du côté du 10 Downing Street, la première ministre Thatcher veut un règlement clair, net et sans faux fuyant. Elle exige qu'avant toute nouvelle discussion, les grévistes et la direction des charbonnages s'échangent des documents écrits. Sinon, martèle Margaret Thatcher, inutile de faire une nouvelle rencontre, nous avons déjà assez perdu de temps. En coulisses, le gouvernement conservateur sait qu'il a déjà gagné la partie, car en face, Arthur Scargill, lâché par le Parti travailliste, isolé des autres organisations syndicales, ne peut plus compter que sur quelques dizaines de milliers de mineurs, sur un total de 180 000. Et semaine après semaine, leur nombre décroît. Avec son flegme jusqu'au boutiste qui le caractérise, et dans un dernier baroud d'honneur, le roi Arthur tient bon jusqu'au tout début du mois de mars 1985. L'histoire retiendra ainsi qu'à quelques jours près, la grève, sa grève, aura tenu presque un an, ce qui en fait le plus long mouvement social de l'histoire. Dans la foulée, les derniers mineurs grévistes reprennent le travail sans avoir rien obtenu en échange. Le coup est dur dans les houillères, tant pour les travailleurs que pour les syndicats. La stratégie était osée, promulguer un arsenal de lois antisyndicales, déployer sur le terrain un large contingent de forces de l'ordre de soldats, puis, et enfin, laisser jouer la montre jusqu'à ce que l'adversaire perde patience et qu'il commette des fautes. Telle fut la stratégie classique mais jusqu'au boutiste adoptée par Margaret Thatcher pour mettre un terme au conflit des mineurs et d'une manière plus générale au syndicalisme au Royaume-Uni. Car la conséquence directe de cet épisode est la décapitation du mouvement minier et de son cadre syndical partout sur l'île. Bien plus tard, dans ses mémoires, Margaret Thatcher admettra tout de même qu'il s'en est fallu de peu pour que son gouvernement ne perde sur toute la ligne face aux mineurs. Car cette grève aura coûté cher, très cher. On parle ici de plus de 30 milliards de livres sterling au cours d'aujourd'hui, soit plus de 35 milliards d'euros de pertes. Autant d'argent qui aurait pu être investi dans une nouvelle politique énergétique plus propre, soit dit au passage. Sur le plan humain, le bilan de cet épisode est tout aussi dramatique. On compte une dizaine de morts, dont 6 mineurs. En un an, on dénombre plus de 20 000 personnes blessées lors d'affrontements entre grévistes et non-grévistes, ou avec la police. De leur côté, les forces de l'ordre ont effectué plus de 10 000 arrestations et incarcéré plus de 200 personnes. Défaite du monde du travail face à l'émergence du système néolibéral pour les uns, conflit social qui a accéléré l'affaiblissement du monde syndical et fait grimper en flèche les inégalités pour les autres. La grande grève des mineurs de 84 est à l'image des années 80, période où on assiste au recul des conquêtes sociales arrachées au cours des décennies précédentes par le mouvement ouvrier. Une période qui a inversé l'évolution du rapport de force entre travail et capital pour aboutir à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Margaret Thatcher et le conflit des mineurs au Royaume-Uni avec notre invité Jean-François. Pierre-François, pardon. Wiffes, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence sur cette affaire intitulé Margaret Thatcher face aux mineurs 1972-1985. 13 années qui ont changé l'Angleterre. Ce livre est paru en 2007 aux éditions Priva. 13 années qui ont changé l'Angleterre. Qu'est-ce que vous voulez dire dans 13 années qui ont changé l'Angleterre?
D'abord, bonjour, merci de m'accueillir et bravo pour votre émission. En fait, j'ai voulu étudier la grève des mineurs de 1984-1985, mais comme ça a été indiqué dans la présentation précédente, on peut pas du tout comprendre cette grève très particulière et tout à fait unique sans tenir compte de ce qui a commencé en 1972, c'est-à-dire la première grève des mineurs des années 70, qui, elle, s'était traduite par une victoire à peu près totale des mineurs sur le gouvernement conservateur. Et donc, il semblait important de traiter la séquence historique dans son ensemble pour pouvoir la comprendre. Ça n'a pas tellement de sens de traiter la grève de 84-85 sans traiter le contexte de l'activité charbonnière, de la place des mineurs dans le mouvement ouvrier, le mouvement social britannique, et comprendre comment on en est arrivé là.
Alors, ce qui est étonnant, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, le Royaume-Uni était un peu l'homme malade économiquement de l'Europe. Hein. La Grande-Bretagne s'effondrerait jeudi prochain, personne ne s'en apercevrait, disait-on à l'époque. D'ailleurs, c'est le personnage d'un roman de John le Carré qui avait fait cette prédiction dans l'un des livres de le Carré. Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre, un pays puissant tout de même, pour en arriver là, économiquement, à l'orée des années 70?
Ben effectivement, les années 70 et les années 80, et particulièrement les années 70, c'est vraiment le moment de la constatation du fait que l'ancien top dog, hein, enfin la nation qui a quand même dominé le monde jusqu'à la Première Guerre mondiale, a changé radicalement de statut, en fait. Hein. Donc, le Royaume-Uni est sorti épuisé des deux conflits mondiaux qu'il a gagnés tous les deux, mais il a perdu son empire, un prix très élevé. Et la Grande-Bretagne ne connaît pas du tout le redressement économique des anciens pays vaincus, ou à moitié vaincus, comme la France, après la Seconde Guerre mondiale, avec une performance économique, notamment un taux de croissance qui n'a rien à voir entre, d'une part, la France, l'Allemagne ou l'Italie, et la Grande-Bretagne, d'autre part. Donc il y a un phénomène de déclassement, je veux dire de dépassement par le grand allié américain, et également quelque chose qui est quand même très très important, c'est une particularité qu'on a un peu oubliée, mais une conflictualité sociale absolument considérable. Donc des pouvoirs très très importants dont disposent les syndicats, avec une conflictualité sociale, un nombre de jours de grève par exemple qui est 4 fois supérieur en Grande-Bretagne qu'en France à la même époque. Donc apparaît la notion de maladie britannique, ou qui a une dimension sociale très importante, et surtout de conflictualité sociale.
Alors l'Angleterre est très dépendante de son charbon, donc elle est aussi dépendante des forces sociales du charbon, on l'a expliqué. Mais enfin, pourquoi cette dépendance aussi forte par rapport au charbon, alors qu'elle est aussi puissance nucléaire? L'Angleterre est l'une des rares puissances nucléaires civiles, hein, civiles et militaires, mais en l'occurrence civiles, puissantes, qui auraient pu générer de l'énergie par le nucléaire. Pourquoi ce panier complètement déséquilibré, qui est probablement aussi à l'origine du problème dont nous venons de parler?
Alors déjà, le charbon, c'est un peu un des fondamentaux de la puissance britannique jusqu'à 1914. Et d'ailleurs, c'est un des fondamentaux également de l'histoire sociale britannique. Lénine, quand il visite le Royaume-Uni en 1912, et voit une grève des mineurs qui se passe très très bien, où ils obtiennent la journée des 8 heures... considère que le syndicat des mineurs britanniques, les mineurs britanniques représentent l'incarnation du prolétariat en marche. Donc c'était quelque chose de très puissant. Après, effectivement, même s'il le maîtrisait après-guerre, même s'il maîtrisait la technologie, les Britanniques, à la différence en particulier de la France, n'ont pas fait le choix d'avoir une production électrique d'origine nucléaire. Donc la France a fait, à partir des années du général de Gaulle et de Georges Pompidou, le choix du nucléaire. Les Britanniques ne l'ont pas fait. Dans les années 1970 et 1980, le charbon représente 80% de l'énergie primaire nécessaire à la production électrique. Et le précédent président des mineurs, avant Scargill, considère que l'électricité, c'est du charbon sur câble. Donc il y a fondamentalement une dépendance effectivement du système électrique à la production charbonnière, mais pendant plusieurs années il n'y a pas eu de difficulté. Effectivement, ça va être révélé de façon assez brutale pendant les deux grèves de 1972 et 1974.
Alors, ce mouvement de grève, il est grand, on l'a dit, il est long. Il dure presque un an, c'est le plus long. Alors, pourquoi dure-t-il un an? Parce que, manifestement, il y a une stratégie dite du pourrissement, tout simplement, qui est adoptée par Margaret Thatcher. Alors, on dit également dans le récit que la personnalité d'Arthur Scargill est finalement sa descente aux enfers, par rapport à l'opinion. Est-ce que ça a été un élément déterminant pour l'échec finalement des mineurs, car cette grève est d'autant plus un échec qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils voulaient obtenir, et qu'en plus elle a duré un an, et que c'était dur pour eux. Est-ce que Scargill porte une responsabilité pour le coup dans cet échec-là?
Ah, moi, à titre personnel, je considère qu'il porte une responsabilité totalement écrasante dans ce qui s'est passé. Donc, Arthur Scargill, c'est la représentation de l'aile gauche du syndicat des mineurs, donc un des vainqueurs d'ailleurs médiatiques des grèves des années 1970. C'est le triomphe de l'aile gauche du syndicat des mineurs, qui avait été mené par un président beaucoup plus modéré, qui a obtenu lui des succès tactiques importants. Et il y a dans son action à la fois des considérations d'ordre catégoriel pour les mineurs, mais également des considérations d'ordre politique. Un bon exemple que je cite dans le livre, c'est le discours qu'il a prononcé en 1983, après la victoire tout à fait totale de Margaret Thatcher sur le Parti travailliste aux élections générales de 1983, où il dit qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce que Margaret Thatcher et son gouvernement, qui vient d'obtenir l'onction démocratique la plus claire, va mettre en place. Et il dit globalement, je cite, « L'action extra-parlementaire constituera la seule solution pour la classe ouvrière et le mouvement des travailleurs. » Donc il y a vraiment une volonté, effectivement, de, grosso modo, de ne pas respecter l'organisation, la gouvernance démocratique une des plus anciennes démocraties du monde, avec la France. Puis après, il a fait, objectivement, pendant la grève des mineurs, un certain nombre d'erreurs tactiques, dont, à mon avis, la pire, c'est il a trouvé une astuce pour ne pas respecter la constitution des mineurs, notamment son article 43, qui imposait qu'il y ait un vote national pour déclencher une grève générale, en fait. Ça, je pense que c'est une erreur, vraiment, quelque part, parce que, globalement, ça a justifié l'action qui était très très bien décrite dans la présentation précédente des non-mineurs, alors que les grèves de 72 et 74 avaient été validées par un référendum, un vote de l'ensemble des mineurs. Donc globalement, les mineurs non-grévistes avaient une légitimité à ne pas entrer en grève, puisqu'il n'y avait pas eu de vote général. Et d'autre part, cela a totalement neutralisé le soutien tactique que pouvait apporter le Parti travailliste au syndicat des mineurs, à l'action des mineurs. Je rappelle d'ailleurs que le leader du Parti travailliste à l'époque, c'est Neil Kinnock, qui est un fils de mineurs gallois, et qui a pu absolument pas faire. Et puis après, il y a vraiment le sujet, une absence d'esprit de compromis à des moments. Je ne pense pas qu'à aucun moment le syndicat des mineurs aurait pu l'emporter, vu objectivement la qualité de la préparation du gouvernement et la détermination de ce gouvernement. Mais par contre, il aurait pu obtenir des résultats moins désastreux.
Alors, on va écouter une archive ensemble, parce qu'on va parler maintenant de Margaret Thatcher. Il nous reste quelques minutes. En 1998, Daniel Mermet, accompagné de Serge Champigny, s'est rendu pour l'émission « Là-bas, si j'y suis », c'était une émission de France Inter, au nord du Pays de Galles, à la mine de Colliery. Ils ont rencontré Ken, un mineur qui a participé au mouvement de grève de 1984. On va écouter son analyse sur le rôle de Madame Thatcher dans cette affaire.
But there is another workers-owned coal mine. In the world.
Nous, vraiment, on pense qu'il n'y a aucun autre exemple de ce type dans le monde.
You must realize that the pit closure was nothing to do with profitability.
Oui, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que la décision de fermer cette mine n'avait rien à voir avec des critères financiers. C'était pas parce que c'était pas rentable.
It was a political decision.
C'est une décision politique.
By the previous Tory government.
Prise par le précédent gouvernement.
Tories, c'est-à-dire les conservateurs.
Who were determined to close down as many mines as possible,
qui voulait vraiment fermer le plus de mines possible,
to do away with the coal industry in Britain,
pour se débarrasser pour de bon de l'industrie du charbon en Angleterre,
especially in areas,
surtout dans ces régions
where the unions were strong and
les syndicats étaient forts et luttaient contre le gouvernement.
And would fight against. It was an anti-reaction.
C'était une réaction anti-syndicat, ça c'est sûr.
Il y a eu un bras de fer très très long entre vous, les mineurs, et le gouvernement de Thatcher.
It was certainly a reaction to that fight.
Oui, c'était une réaction à toutes ces luttes.
And whilst it would be fair to say,
ce serait juste effectivement de dire que
the government won the fight,
le gouvernement avait gagné cette guerre économique.
Guerre économique.
They were determined that there would never be a sufficient number of miners in Britain.
Et ils voulaient s'assurer qu'il n'y aurait plus jamais autant de mineurs qui pourraient s'opposer à eux comme ça, de cette manière.
They wanted the industry, certainly in areas like South Wales, smashed.
Ils voulaient les foutre en l'air, surtout ici, dans le sud du Pays de Galles.
Partager cette analyse de cet ancien mineur. Alors, évidemment, sa parole est orientée, on peut bien comprendre, hein, il a vécu comme cette grève.
Oui, enfin, moi, ça me semble assez juste comme analyse. En fait, il y a grosso modo des deux côtés des objectifs catégoriels, mais qui cachent des objectifs de nature politique, qui sont complètement assumés. Donc clairement, les orientations, marxistes et communistes du côté d'Arthur Scargill. Les communistes en Grande-Bretagne, c'est un petit peu comme les trotskistes en France. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas de poids électoral, mais qui avaient une très très grande influence au sein du Parti travailliste, au sein du mouvement syndical. Et du côté de Margaret Thatcher, il y a vraiment, d'une certaine manière, un certain mandat que lui ont donné les Britanniques sur l'abus du pouvoir syndical qui s'est manifesté dans les années 1970. Donc il y a eu notamment un événement de contexte qui est quand même très important. C'est juste avant les élections de 1979, il y a eu à l'hiver 78-79, l'hiver du mécontentement, The Winter of Discontent, où la société britannique dans son ensemble a été totalement disruptée par une grève générale. Donc dans le programme d'ailleurs de Margaret Thatcher de 1979, il y a la volonté de dire que les syndicats doivent se limiter à l'action catégorielle, mais ils ne peuvent pas gêner la vie sociale, le fonctionnement de la société dans son ensemble, et que c'est le gouvernement légitimement élu qui a la main pour régler ces problèmes. Et Margaret Thatcher a mis en œuvre ce programme de façon assez radicale et objectivement avec pas mal de vista technique.
Alors, Margaret Thatcher a une volonté inflexible allant jusqu'à l'intransigeance, une maîtrise de soi rarement prise en défaut, la certitude, en tout cas, c'est l'impression qu'elle donnait, hein, d'avoir raison contre vent et marée. Alors, François Mitterrand disait d'elle, elle a la bouche de Marilyn et le regard de Caligula. Bon. Donc, la Dame de Fer, c'était un surnom qu'on ne lui a pas donné par hasard. Il peut y avoir aussi une certaine forme de brutalité, effectivement. Mais enfin, dire on ferme les mines, alors peut-être que c'est une manœuvre pour fermer la contestation des mineurs. Bon, enfin, c'est un choix économique aussi. C'est peut-être d'abord, avant tout, un choix économique. Ce qu'on appelle une restructuration d'un outil économique qui n'est plus rentable. Et qui, ça a été la même chose en France, quasiment, de façon quasi concomitante. Hein. Les restructurations, 83, ça commence en 83. Est-ce que c'est pas d'abord un choix économique avant d'être un choix politique, le choix de Margaret Thatcher? Économico-politique, stratégique.
Je pense qu'on a une image de Margaret Thatcher très dominée par l'idéologie qu'elle représente.
Néolibérale.
Enfin, libérale, free market, lutte contre l'inflation, anticommuniste, antisoviétique. Je pense, comme j'ai regardé d'assez près la grève des mineurs, qu'elle fait montre d'une capacité tactique tout à fait formidable. Alors, déjà, il y a un événement qui est quand même assez important pour moi, c'est qu'en 1981, elle se retrouve à peu près dans la situation de 1984 et elle décide de faire des concessions pour ne pas rentrer dans la grève, dans la confrontation, parce qu'elle n'est pas encore prête. Donc globalement, elle abandonne, elle subit une défaite limitée. Après, elle se prépare avec beaucoup de vista dans tous les domaines, l'ordre public, le changement du droit de grève, le traitement du fait que, ce qui était absolument critique dans les années 70, que l'électricité continue à fonctionner dans la Grande-Bretagne. Et elle fait des choses pour, grosso modo, ne jamais pouvoir perdre, mais avec, effectivement, beaucoup de détermination.
D'ailleurs, les Britanniques aujourd'hui, qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas, disent beaucoup, hein, beaucoup d'entre eux, on a eu deux grands premiers ministres historiques, ça n'a rien à voir, mais il y a eu Churchill et Thatcher. Voilà, il me reste à vous remercier, Pierre-François Gouifès. On aurait pu encore parler longtemps de cette affaire, mais le temps est le temps.
Merci à Pierre-François Sensible, merci de vous intéresser à mon travail.
Mais je vous en prie, au revoir, merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Margaret Thatcher et les mineurs, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous nous intéresserons au Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine. Bonjour Vincent Josse.
Oh, ben, je vous écouterai aussi demain.
Ah bah oui, forcément.
Ariane Nouchkine.
Ça va vous intéresser.
Bien sûr.
Bon, écoutez, je ne vais pas ouvrir la boîte à surprises avant l'heure, ce serait dommage, mais je sais qu'il y a des surprises aujourd'hui avec vous.
Voilà, on va parler d'instruments rares.
Bon, très bien, tout à l'heure.
À tout de suite.